Radio Prague, les informations.
Pas de visa pour les ressortissants tchèques se rendant au Canada. La norme européenne sur les produits chimiques est adoptée par le Sénat. L'euro est à moins de 23 couronnes tchèques. La République tchèque et le Canada vont coopérer en vue de réduire le nombre de demandeurs d'asile dans ce dernier pays. C'est ce qui ressort des conversations à Prague du chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, et de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Diana Finlay. Celle-ci a également souligné qu'Ottawa n'avait pas l'intention de réintroduire l'obligation de visa pour les citoyens tchèques se rendant au Canada, à cause d'un nombre accru de ses demandeurs, cette obligation ayant été abolie l'année dernière. Le Sénat tchèque vient d'adopter la norme européenne sur les produits chimiques. Son objectif est d'analyser toutes les données disponibles sur plus de 30 000 produits chimiques qui sont vendus sur le marché européen. D'après l'Union de l'industrie chimique tchèque, les sociétés devront débourser dans les 11 milliards de couronnes pour répondre à cette norme. Elle devrait être encore signée par le président de la République, Václav Klaus, qui l'avait déjà sévèrement critiqué. Il pourrait bien y apposer son veto. La monnaie tchèque continue de battre tous les records. Ce vendredi, l'euro ne coûtait que 22,99 couronnes tchèques. Le cours de la couronne grimpe aussi face au dollar américain, qui ne coûte que 14 couronnes 51. Depuis le début de cette année, le cours de la monnaie tchèque a augmenté de plus de 11%. Selon les économistes, ce cours élevé favorise le contrôle de l'inflation, mais est aussi un frein à la croissance économique. Les sénateurs viennent de renvoyer la loi sur les déchets à la Chambre des députés. Cette loi était surtout destinée à rendre plus facile et plus difficile plutôt la vente des métaux volés aux ferrailleurs peu scrupuleux. Les sénateurs y ont ajouté plusieurs articles qui devraient par exemple interdire la vente aux personnes physiques dans certains cas. Les ferrailleurs devront aussi identifier avec plus de précision ce qu'ils achètent. Les députés devraient adopter sans problème ces quelques changements. Les wagons-restaurants feront de nouveau partie des trains qui roulent sur les voies ferrées tchèques. Ils en avaient disparu il y a un mois, en raison de la faillite de la société Oblique. Les chemins de fer tchèques viennent de conclure un nouvel accord avec les fournisseurs de la société Oblique, et les wagons-restaurants seront en service dans 16 rapides tchèques, cela à partir du 18 juillet. Cela fait 17 ans que les Tchèques n'avaient pas remporté de médaille au championnat du monde de course d'orientation. Aux championnats qui ont lieu en Tchéquie, à Stará Ves, Michal Smola, tchèque, vient de remporter la médaille d'argent. Chez les dames, Radka Brošková a remporté la médaille de bronze. Le nouveau champion du monde est le français Thierry Georgiou, et c'est son 5e titre mondial. Avant de nous quitter, la météo, qui ne nous annonce pas du beau temps pour ce week-end, le ciel devrait être couvert avec de fréquentes averses. Les orages ne sont pas exclus non plus. Les températures seront en dessous de la moyenne de la saison, avec tout juste dans les 22 degrés dans la journée. Une amélioration est attendue seulement pour la semaine prochaine, et surtout au début du mois d'août. Autrement, bonne fête au Tchaniek, le 19 juillet, d'après le calendrier tchèque. C'était Alain Slivinski avec les informations, et je vous souhaite une très très bonne écoute de la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Dernier faits et événements de la semaine, avec au programme aujourd'hui un point sur les relations entre la République tchèque et le Canada. Jeudi, la ministre canadienne de la Citoyenneté et de l'Immigration est venue à Prague s'entretenir avec le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, pour évoquer le problème des demandes d'asile déposées au Canada par des citoyens tchèques en grande majorité d'origine rome. Culture ensuite, avec un festival de musique classique très attendu à Český Krumlov, et du cinéma avec un retour sur le festival de Karlo Vivari. Tout ça, ce sera avant de monter à bord de l'AGV, le nouveau train à grande vitesse que la société française Alstom teste en ce moment sur un circuit près de Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. Moins d'un an après la levée de l'obligation de visa pour les citoyens de la République tchèque se rendant au Canada, une affluence de demandeurs d'asile a poussé la ministre canadienne de l'Immigration, Diane Finlay, à mettre le sujet à l'ordre du jour pendant sa visite à Prague. Ottawa avait déjà levé l'obligation de visa en 1996, mais l'avait rétabli un an plus tard à cause du trop grand nombre de demandes d'asile. Selon la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, le pays a reçu 302 demandes d'asile de la part de citoyens tchèques de janvier à mai 2008, et les médias tchèques ont récemment révélé que ce nombre s'élevait à 449 à la fin du mois de juin. Les demandeurs d'asile seraient en majorité des Roms tchèques. On écoute Diane Finlay, la ministre de l'immigration canadienne.
Il y a eu des demandes. Aucune des personnes ayant fait la demande n'a reçu le statut de réfugié jusqu'à présent. Nous surveillons de près la situation et c'est pour cela que je suis en Europe centrale en ce moment, pour être sûr que nous prenons toutes nos responsabilités et qu'il n'y ait pas d'abus du système des deux côtés. Mon but est de faire en sorte que nos gouvernements coopèrent pour que les relations sans besoin de visa soient maintenues.
That our governments work together so that the visa-free status is maintained. That's what we all want to achieve, right?
Entre 1996 et 2000, près de 1700 ressortissants tchèques avaient fait une demande d'asile et plus de la moitié l'avaient obtenue. Les chances de l'obtenir aujourd'hui sont beaucoup plus minces et Prague tente de dissuader les candidats potentiels. On écoute Karel Schwarzenberg, le ministre tchèque des Affaires étrangères.
Évidemment, nous ne pouvons restreindre la liberté de mouvement de nos citoyens, mais nous essayons de convaincre ceux qui veulent partir que la situation économique est telle ici que le chômage baisse. Nous essayons aussi d'éliminer les raisons qui les poussent à demander l'asile. Nous avons observé que plusieurs de ceux qui sont allés au Canada sont rentrés ici, que ce n'est pas le paradis sur terre. Ceux qui n'obtiennent pas l'asile doivent rentrer et leur situation est souvent pire qu'elle ne l'était quand ils sont partis.
Et rappelons pour finir que l'obligation de visa devrait bientôt être levée également pour les Tchèques qui souhaitent se rendre aux États-Unis.
Toute vérité est-elle bonne à dire ? Doit-on tout se confier ?
Cats and dogs can be friends in love in the end, why don't we?
Dans le film du français Sam Carman, les triangles amoureux s'apparentent plus à des figures géométriques compliquées. Anne et Maria Thomas, qui en pince pour Caroline, la nouvelle femme de Marc, l'ex-mari d'Anne, qui a elle-même un faible pour Vincent, qui lui a ses propres problèmes. Bref, Sam Carman, dans son troisième opus, a décidé de s'attaquer à ce qui agite le monde depuis Adam et Ève. Infidélité, mensonge, sincérité entre les êtres. Adapté d'un roman américain de Stephen McCauley, ce sont les comédiens français Karine Viard, François Cluzet, André Dussolier et Sam Carman lui-même qui incarnent les personnages de la vérité ou presque. Le film était en compétition à Carlo Vivari et vous retrouverez Sam Carman dans la rubrique culturelle de ce week-end. Tout cela sur fond de jazz avec des compositions de sa femme Catherine Olson qui incarne une mystérieuse chanteuse de jazz lyonnaise des années 50, Pauline Anderton. Le Festival international de musique de Český Krumlov s'ouvre ce vendredi sur ce site classé au patrimoine de l'UNESCO. Jusqu'au 23 août, il proposera 25 concerts de différents genres donnés sur plusieurs scènes, en plein air ainsi que dans les intérieurs, au manège et dans la salle de masques du château et même dans des églises. Ces concerts seront interprétés par d'éminents artistes tchèques et internationaux, dont des solistes du Metropolitan Opera de New York, et des vedettes de comédie musicale de Broadway, Jarka Gisubelova.
Le programme de la 17e édition du Festival de musique de Český Krumlov est vraiment exceptionnel et la soirée d'ouverture marque déjà l'un de ses sommets. L'opéra de Giuseppe Verdi, La Force du Destin, y est présenté en première sur la scène du théâtre à ciel ouvert et interprété par des artistes du Théâtre National de Prague et des hôtes du Metropolitan Opera de New York. Plus de 150 artistes participent à ce projet le plus grand réalisé sur cette scène et l'un des plus exigeants. On écoute le directeur du festival, Jaromír Boháč.
Le travail sur le projet mené avec le théâtre de Bohème du Sud de České Budějovice a duré plus d'un an. Nous avons contacté bien à l'avance les artistes du Met que nous avons voulu inviter à collaborer et qui sont venus au festival. Le chef d'orchestre, John Keenan, le ténor Raoul Melo et la soliste soprano Kyung-ye La de Corée du Sud.
L'opéra La Force du Destin a eu sa première en avril dernier dans le théâtre de Bohème du Sud de České Budějovice dans une mise en scène un peu différente de celle qui est donnée au festival. La scène tournante du théâtre en plein air lui convient beaucoup mieux, souligne le directeur du théâtre de České Budějovice, Jiří Šesták.
Il est vrai que le thème sur lequel l'opéra est basé se prête à une scène en plein air, car une partie se déroule en Espagne. Une autre sur un champ de bataille en Italie, et ensuite encore dans un couvent des franciscains. La variabilité de la scène permet de situer l'opéra dans le jardin.
Comme le précise Véronika Dushkova, porte-parole du festival, la soirée d'ouverture exceptionnelle parce qu'elle propose deux concerts au manège du château. Des airs d'opéra célèbres sont interprétés par d'éminents hôtes du Met qui se produisent également sur d'autres scènes mondiales. Le chef d'orchestre Daniel Raiskin, la soprano Alison Balshoy, le baryton Richard Killer et la basse Eric Jordan. Le festival accueille d'autres artistes encore et d'autres genres que l'opéra, Marketa Irklova et Glenn Hansard, récemment couronnés aux Oscars pour la meilleure chanson de film. Des comédies musicales seront données le 2 août dans le jardin de la brasserie de Krumlov, interprétées par des légendes de Broadway. En attendant, voici un extrait de l'opéra La Force du Destin de Verdi, par lequel le festival de musique commence vendredi soir à Český Krumlov. Thank you.
Fin de ces faits et événements, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Et direction maintenant le village de Velim, à une soixantaine de kilomètres de Prague, là où se trouve le circuit d'essais ferroviaires de Tserhenice, une boucle de 13 kilomètres sur laquelle est testée en ce moment l'automotrice grande vitesse AGV, le nouveau train de la société Alstom. Situation un peu paradoxale, la République tchèque n'est pas vraiment bien équipée en ligne grande vitesse, mais c'est ici qu'est testé le train le plus rapide du monde, avec un record récemment établi à 574,8 km/h. Alors pourquoi à Velim ? Réponse avec Laurent Baron, responsable du département grande vitesse de Alstom, qui nous a emmenés à bord de l'AGV pendant un des essais.
Tout simplement parce qu'en Europe, il y a trois anneaux qui existent. Il y en a un en France à côté de Valenciennes, mais qui est limité à 80 km/h. Donc pour un train à très grande vitesse, ça ne nous permet peut-être pas de tester suffisamment le matériel. Le deuxième est en Allemagne, c'est l'anneau de Wildenrath, qui est la propriété de Siemens, un de nos concurrents, et qui en plus est limité à 160 km/h. Donc on préférait ne pas aller là. Et le troisième qui existe est tout simplement celui de Velim en Tchéquie, qui autorise 200 km/h, même 210, et qui nous permet, qui est très intéressant pour nous, parce que ça nous permet de valider complètement le fonctionnement, j'aurais tendance à dire final du train.
Alors, est-ce que ça coûte aussi moins cher de faire des essais ici plutôt qu'à Valenciennes?
Entre Velim et Valenciennes, j'aurais tendance à dire le coût est pas du tout le même puisque la vitesse n'est pas la même. C'est quand même fortement lié à la vitesse et à la longueur de l'anneau. Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher ici, mais globalement, les prestations sont complètement différentes.
Alors c'est, vous l'avez dit, la vitesse maximale de 110 km/h. Est-ce que on peut quand même avoir une idée? Est-ce que ce sont des tests qui permettent d'avoir une idée pour la vitesse plus importante à laquelle est destinée l'AGV?
Alors pour tout ce qui est chaîne de traction, qu'on soit de 180 à 320 ou 360, c'est exactement le même comportement. Donc tout ce que nous verrons ici sera parfaitement représentatif des très très grandes vitesses. Il est clair que sur d'autres aspects qui sont par exemple l'interface pantocaténaire ou la dynamique ferroviaire, c'est-à-dire l'interface roue-rail, eh bien on est limité en vitesse et on fera un certain nombre de simulations à partir de ces résultats pour s'assurer que la dynamique est bonne et que les résultats seront les mêmes à très grande vitesse. Mais de toute façon, il faudra aussi valider le comportement du train à 300 et plus.
Les capteurs que vous voyez là sont des capteurs de vibration, parce qu'on fait pas mal de mesures de vibration aussi. Vous voyez qu'on est équipé avec tout ce qu'il faut pour pouvoir modifier les pièces si on en a besoin. On a un établi et tout. On a plein de pièces de rechange ici, qui sont localisées dans ces armoires.
Alors on est à peu près à combien de kilomètres heure là?
Là on doit tourner à 160. Alors ici dans cette voiture là, c'est la voiture clé. Alors bon, il est un peu mis n'importe comment. Mais en fait, c'est la voiture dans laquelle on a installé un WC handicapé pour vérifier en fait comment on pouvait rentrer le WC lui-même. C'était plus sous cet aspect-là, parce qu'en termes de WC lui-même, on l'a pas activé en tant que tel. C'était simplement pour voir la place que ça allait prendre et comment on pouvait intégrer un WC handicapé qui demande quand même des surfaces assez importantes dans un train.
Et alors, est-ce que vous êtes jusqu'à présent, depuis combien de temps avec vous commencez les tests, est-ce que vous êtes satisfait?
Un mois et demi. On a commencé les tests il y a un mois et demi et globalement, bon, on a eu quelques petites difficultés au début des essais parce que quand on est parti de La Rochelle, le train n'était pas complètement nettoyé, j'aurais tendance à dire, et parfaitement propre. Donc on a eu quelques difficultés pendant 15 jours, 3 semaines. Mais depuis, le train fonctionne relativement bien et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de grosses difficultés ou de paramètres qui n'allaient pas être tenus.
Et les tests ici à Velim vont durer combien de temps en tout?
Les tests ici à Velim vont durer en gros 4 mois, c'est-à-dire qu'on va rester là jusqu'à mi-septembre. Donc vous avez là ici une autre particularité de la GV qu'on a voulu monter, c'est-à-dire qu'on a mis des ascenseurs pour personnes à mobilité réduite. On a adapté dans le train, donc en fait il se déploie pour permettre l'accessibilité assez facile, je dirais,
des personnes soit à mobilité réduite, soit en fauteuil roulant.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire? Alors, on se trouve dans le laboratoire du train, c'est bien ça?
Oui, on est dans le laboratoire donc, de la rampe Pégase. Et là, on fait une surveillance des paramètres bougies pour vérifier que tout se comporte bien et puis faire des essais de caractérisation mécanique.
Et vous mesurez tous les paramètres?
Alors, un certain nombre. Donc là, il y a des paramètres liés à la chaîne de traction, un certain nombre de variables liées au freinage, puisqu'on est en phase de mise au point du système de freinage, et puis également donc la surveillance de tout ce qui est fonctionnel sur le train.
Alors, il paraît que le principal souci ici, ce sont les animaux qui entourent. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec ça, des cerfs notamment?
Oui, bon, c'est assez rural, donc effectivement, il y a des lapins, il y a des biches. On peut admirer aussi le paysage, oui.
Frode Mou, je suis directeur technique de la compagnie Aéroport.
Quel est le but de votre visite aujourd'hui à Vélines?
C'est évidemment voir le train comme tel, pas seulement dans une photographie.
Et donc c'est dans le but peut-être un jour d'acquérir ce train pour votre compagnie. Vous pouvez nous expliquer d'où vous venez?
Je travaille avec le train à Oslo pour aller à l'aéroport à Oslo. Et on a déjà un service de grande vitesse à 210 km. Et bien sûr, on considérait de changer notre train. Mais c'est pas maintenant, bien sûr, mais peut-être dans 5 ou 6 ans, c'est bien une possibilité.
Alors, est-ce que vous essayez ce train et vous allez en essayer d'autres sociétés?
On a une possibilité de voir les autres trains aussi, bien sûr. On n'a pas du tout décidé quel train exact, mais en principe, on est ouvert pour toute possibilité, bien sûr.
Et de ce que vous avez pu voir ici dans les tests en République tchèque, est-ce que ça vous semble correspondre à ce que vous pourriez acheter?
Oui, je crois bien. On n'a pas besoin d'une vitesse plus que 250 km, donc il y a beaucoup de possibilités. Et surtout, c'est un train assez long. Et pour l'instant, on n'a pas besoin d'un tel long train. Donc, il y a beaucoup de choses à décider.
Le prix aussi, j'imagine, est important.
Évidemment, bien sûr.
Et le choix du Bombardier, le train que vous aviez avant, c'était fait sur plusieurs critères?
Oui, c'était une coopération avec une autre compagnie. En ce temps-là, on achetait des trains pour le système norvégien, en fait. Et ce train pour l'aéroport, c'est une exception d'une famille, c'est-à-dire c'est une sœur d'une autre famille, disons.
Et voilà, c'est tout pour ce petit tour dans l'AGV, le nouveau train à grande vitesse qui est à l'essai près de Prague. On termine cette émission en musique avec Tom Waits en concert exceptionnel lundi et mardi prochain à Prague.
See the hole in the knickerbockers in.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear